Première partie, chapitre 2. La duchesse doit être alliancée avec tout ça, dit Françoise en reprenant la conversation aux Guermantes de la rue de la Chaise, comme on recommence un morceau à l'andante. Je ne sais plus qui m'a dit qu'un de ceux-là avait marié une cousine au duc. En tout cas, c'est de la même parenthèse. C'est une grande famille que les Guermantes, ajoutait-elle avec respect, fondant la grandeur de cette famille à la fois sur le nombre de ses membres et l'éclair de son illustration, comme Pascal, la vérité de la religion sur la raison et l'autorité des Écritures. Car, n'ayant que ce seul mot de « grand » pour les deux choses, il lui semblait qu'elle n'en formait qu'une seule, son vocabulaire, comme certaines pierres, présentant ainsi par endroits un défaut et qui projetait de l'obscurité jusque dans la pensée de Françoise. « Je me demande si ce serait pas eux qui ont leur château à Guermantes, à 10 lieues de Combray. Alors ça doit être parent aussi à leur cousine d'Alger. » Nous nous demandâmes longtemps, ma mère et moi, qui pouvait être cette cousine d'Alger. Mais nous comprîmes enfin que Françoise entendait par le nom d'Alger la ville d'Angers. Ce qui est lointain peut nous être plus connu que ce qui est proche. Françoise, qui savait le nom d'Alger à cause d'affreuses dates que nous recevions au jour de l'an, ignorait celui d'Angers. Son langage, comme la langue française elle-même, et surtout la toponymie, était parsemé d'erreurs. Je voulais en causer à leur maître d'hôtel. « Comment donc on lui dit ? » s'interrompit-elle comme se posant une question de protocole. Elle se répondit à elle-même. « Ah oui, c'est Antoine qu'on lui dit. » Comme si Antoine avait été un titre. « C'est lui qu'aurait pu m'en dire. Mais c'est un vrai seigneur, un grand pédant. On dirait qu'on lui a coupé la langue ou qu'il a oublié d'apprendre à parler. Il ne vous fait même pas réponse quand on lui cause. » Ajoutait Françoise qui disait « faire réponse comme Madame de Sévigné. » « Mais, ajouta-t-elle sans sincérité, « du moment que je sais ce qui cuit dans ma marmite, je ne m'occupe pas de celle des autres. En tout cas, tout ça n'est pas catholique. Et puis, c'est pas un homme courageux. » Cette appréciation aurait pu faire croire que Françoise avait changé d'avis sur la bravoure qui, selon elle, à Combray, ravalait les hommes aux animaux féroces. Mais il n'en était rien. Courageux signifiait seulement travailleur. On dit aussi qu'il est voleur comme une pie. Mais il ne faut pas toujours croire les cancans. Ici, tous les employés partent. Rapport à la loge, les concierges sont jaloux et ils montent la tête à la duchesse. Mais on peut bien dire que c'est un vrai feignant que cet Antoine, et son Antoinesse ne vaut pas mieux que lui. Ajoutait Françoise, qui, pour trouver au nom d'Antoine un féminin qui désigna la femme du maître d'hôtel, avait sans doute dans sa création grammaticale un inconscient ressouvenir de chanoine et chanoinesse. Elle ne parlait pas mal en cela. Il existe encore près de Notre-Dame une rue appelée rue chanoinesse, nom qui lui avait été donné, parce qu'elle n'était habitée que par des chanoines, par ces Français de jadis, dont Françoise était, en réalité, la contemporaine. On avait d'ailleurs, immédiatement après, un nouvel exemple de cette manière de former les féminins, car Françoise ajoutait « Mais sûr et certain que c'est à la duchesse qu'est le château de Guermantes, et c'est elle dans le pays qu'est madame la mairesse. C'est quelque chose !»« Je comprends que c'est quelque chose !» disait avec conviction le valet de pied, n'ayant pas démêlé l'ironie. « Penses-tu, mon garçon, que c'est quelque chose? Mais pour des gens comme eux, être mère et mairesse, c'est 3 fois rien. Si c'était à moi le château de Guermantes, on ne me verrait pas souvent à Paris. Faut-il tout de même que des maîtres, des personnes qui ont de quoi, comme monsieur et madame, en aient des idées pour rester dans cette misérable ville, plutôt que non pas aller à Combray dès l'instant qu'ils sont libres de le faire et que personne les retient? Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leur retraite, puisqu'ils ne manquent de rien? D'être morts? Ah! Si j'avais seulement du pain sec à manger et du bois pour me chauffer l'hiver, il y a beau temps que je serais chez moi, dans la pauvre maison de mon frère à Combray. Là-bas, on se sent vivre au moins. On n'a pas toutes ces maisons devant soi. Il y a si peu de bruit que la nuit on entend les grenouilles chanter à plus de 2 lieues. Ça doit être vraiment beau, madame! S'écriait le jeune valet de pied avec enthousiasme, comme si ce dernier trait avait été aussi particulier à Combray que la vie en gondole à Venise. D'ailleurs, plus récent dans la maison que le valet de chambre, il parlait à Françoise des sujets qui pouvaient intéresser non lui-même, mais elle. Et Françoise, qui faisait la grimace quand on la traitait de cuisinière, avait pour le valet de pied, qui disait, en parlant d'elle, la gouvernante, la bienveillance spéciale qu'éprouvent certains princes de second ordre envers les jeunes gens bien intentionnés qui leur donnent de l'altesse. Au moins on sait ce qu'on fait et dans quelle saison qu'on vit. Ce n'est pas comme ici qu'il n'y aura pas plus un méchant bouton d'or à la Sainte Pâque qu'à la Noël, et que je ne distingue pas seulement un petit angélus quand je lève ma vieille carcasse. Là-bas, on entend chaque heure. Ce n'est qu'une pauvre cloche, mais tu te dis « Voilà mon frère qui rentre des champs. » Tu vois le jour qui baisse, on sonne pour les biens de la terre. Tu as le temps de te retourner avant d'allumer ta lampe. Ici, il fait jour, il fait nuit, on va se coucher qu'on ne pourrait seulement pas plus dire que les bêtes ce qu'on a fait. Il paraît que mes églises aussi c'est bien joli, madame, interrompit le jeune valet de pied, au gré de qui la conversation prenait un tour un peu abstrait, et qui se souvenait par hasard de nous avoir entendu parler à table de mes églises. Oh, mes églises! Disait Françoise avec le large sourire qu'on amenait toujours sur ses lèvres quand on prononçait ces noms de mes églises, de Combray, de Tansonville. Il faisait tellement partie de sa propre existence qu'elle éprouvait à les rencontrer au dehors, à les entendre dans une conversation, une gaieté assez voisine de celle qu'un professeur excite dans sa classe en faisant allusion à tel personnage contemporain dont ses élèves n'auraient pas cru que le nom pût jamais tomber du haut de la chaire. Son plaisir venait aussi de sentir que ces pays-là étaient pour elle quelque chose qu'ils n'étaient pas pour les autres, de vieux camarades avec qui on a fait bien des parties. Et elle leur souriait comme si elle leur trouvait de l'esprit, parce qu'elle retrouvait en eux beaucoup d'elle-même. « Oui, tu peux le dire, mon fils, c'est assez joli, mes églises, » reprenait-elle en riant finement. « Mais comment que tu en as eu entendu causer, toi, de mes églises ?»« Comment que j'ai entendu causer de mes églises ? Mais c'est bien connu, on m'en a causé, et même souvent te fois causé, » répondit-il avec cette criminelle inexactitude des informateurs qui, chaque fois que nous cherchons à nous rendre compte objectivement de l'importance que peut avoir pour les autres une chose qui nous concerne, nous mettent dans l'impossibilité d'y réussir. Ah ! Je vous réponds qu'il fait meilleur là sous les cerisiers que près du fourneau. Elle leur parlait même de Lalie comme d'une bonne personne. Car depuis que Lalie était morte, Françoise avait complètement oublié qu'elle l'avait peu aimée durant sa vie, comme elle aimait peu toute personne qui n'avait rien à manger chez soi, qui crevait la faim. Et venait ensuite, comme une propre à rien, grâce à la bonté des riches, faire des manières. Elle ne souffrait plus de ce que Lalie eût si bien su se faire chaque semaine donner la pièce par ma tante. Quant à celle-ci, Françoise ne cessait de chanter ses louanges. « Mais c'est à Combray même, chez une cousine de madame, que vous étiez alors !» demandait le jeune valet de pied. « Oui, chez Madame Octave. Ah, une bien sainte femme, mes pauvres enfants. Et où il y avait toujours de quoi. Et du beau, et du bon. Une bonne femme, vous pouvez dire, qui ne plaignait pas les perdreaux, ni les faisans, ni rien. Que vous pouviez arriver dîner à 5 à 6, ce n'était pas la viande qui manquait, et de première qualité encore. Et vin blanc, et vin rouge, tout ce qu'il fallait. » Françoise employait le verbe plaindre dans le même sens que fait la Bruyère. Tout était toujours à ses dépens, même si la famille, elle restait des mois et en nez. Cette réflexion n'avait rien de désobligeant pour nous, car Françoise était d'un temps où « dépens » n'était pas réservé au style judiciaire et signifiait seulement « dépense ». Ah, je vous réponds qu'on ne partait pas de là avec la faim. Comme monsieur le curé nous l'a eu fait ressortir bien des fois, s'il y a une femme qui peut compter d'aller près du bon Dieu, sûr et certain que c'est elle. Pauvre madame, je l'entends encore qui me disait de sa petite voix « Françoise, vous savez, moi je ne mange pas, mais je veux que ce soit aussi bon pour tout le monde que si je mangeais. » Bien sûr que c'était pas pour elle. Vous l'auriez vu, elle ne pesait pas plus qu'un paquet de cerises. Il n'y en avait pas. Elle ne voulait pas me croire. Elle ne voulait jamais aller au médecin. Ah, ce n'est pas là-bas qu'on aurait rien mangé à la va-vite. Elle voulait que ses domestiques soient bien nourris. Ici, encore ce matin, nous n'avons pas seulement eu le temps de casser la croûte. Tout se fait à la sauvette. » Elle était surtout exaspérée par les biscottes de pain grillé que mangeait mon père. Elle était persuadée qu'il en usait pour faire des manières et la faire valser. « Je peux dire, » approuvait le jeune valet de pied, « que j'ai jamais vu ça. » Il le disait comme s'il avait tout vu, et si en lui les enseignements d'une expérience millénaire s'étendaient à tous les pays et à leurs usages, parmi lesquels ne figurait nulle part celui du pain grillé. « Oui, oui, » grommelait le maître d'hôtel. « Mais tout cela pourrait bien changer. Les ouvriers doivent faire une grève au Canada, et le ministre a dit l'autre soir à monsieur qu'il a touché pour ça 200 000 francs. » Le maître d'hôtel était loin de l'en blâmer. Non qu'il ne fût lui-même parfaitement honnête, mais, croyant tous les hommes politiques véreux, le crime de concussion lui paraissait moins grave que le plus léger délit de vol. Il ne se demandait même pas s'il avait bien entendu cette parole historique, et il n'était pas frappé de l'invraisemblance qu'elle eût été dite par le coupable lui-même à mon père, sans que celui-ci l'eût mis dehors. Mais la philosophie de Combray empêchait que Françoise pût espérer que les grèves du Canada eussent une répercussion sur l'usage des biscottes. « Tant que le monde sera monde, voyez-vous, disait-elle, il y aura des maîtres pour nous faire trotter et des domestiques pour faire leurs caprices. » En dépit de la théorie de cette trotte perpétuelle, depuis un quart d'heure, ma mère, qui n'usait probablement pas des mêmes mesures que Françoise pour apprécier la longueur du déjeuner de celle-ci, disait « Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Voilà plus de 2 heures qu'ils sont à table. » Et elle sonnait timidement 3 ou 4 fois. Françoise, son valet de pied, le maître d'hôtel, entendaient les coups de sonnette, non comme un appel, et sans songer à venir. Mais pourtant, comme les premiers sons des instruments qui s'accordent quand un concert va bientôt recommencer et qu'on sent qu'il n'y aura plus que quelques minutes d'entracte. Aussi, quand les coups commençant à se répéter et à devenir plus insistants, nos domestiques se mettaient à y prendre garde et, estimant qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps devant eux et que la reprise du travail était proche, un tintement de la sonnette un peu plus sonore que les autres, ils poussaient un soupir et, prenant leur parti, le valet de pied descendait fumer une cigarette devant la porte. Françoise, après quelques réflexions sur nous, telles que « Ils ont sûrement la bougeotte !» montait ranger ses affaires dans son 6e, et le maître d'hôtel, ayant été chercher du papier à lettres dans ma chambre, expédier rapidement sa correspondance privée. Malgré l'air de morgue de leur maître d'hôtel, Françoise avait pu, dès les premiers jours, m'apprendre que les Guermantes n'habitaient pas leur hôtel en vertu d'un droit immémorial, mais d'une location assez récente, et que le jardin sur lequel ils donnaient, du côté que je ne connaissais pas, était assez petit et semblable à tous les jardins contigus. Et je sus enfin qu'on n'y voyait ni gibet seigneurial, ni moulin fortifié, ni sauvoir, ni colombier à piliers, ni four banal, ni grange à nef, ni châtelet, ni pont fixe ou levis, voire volant, non plus que péage, ni aiguille, charte, murales ou montjoie. Mais comme Elstir, quand l'abbé de Balbec ayant perdu son mystère, étant devenu pour moi une partie quelconque interchangeable avec tout autre des quantités d'eau salée qu'il y a sur le globe, lui avait tout d'un coup rendu une individualité, en me disant que c'était le golfe d'opale de Whistler dans ses harmonies bleu-argent, ainsi le nom de Guermantes avait vu mourir sous les coups de Françoise la dernière demeure issue de lui. Quand un vieil ami de mon père nous dit un jour, en parlant de la duchesse, « Elle a la plus grande situation dans le faubourg Saint-Germain. Elle a la première maison du faubourg Saint-Germain. » Sans doute le premier salon. La première maison du faubourg Saint-Germain, c'était bien peu de chose auprès des autres demeures que j'avais successivement rêvées. Mais enfin, celle-ci encore, et ce devait être la dernière, avait quelque chose, si humble ce fût-il, qui était, au-delà de sa propre matière, une différenciation secrète. Et cela m'était d'autant plus nécessaire de pouvoir chercher dans le salon de Madame de Guermantes, dans ses amis, le mystère de son nom, que je ne le trouvais pas dans sa personne, quand je la voyais sortir le matin, à pied, ou l'après-midi, en voiture. Certes, déjà, dans l'église de Combray, elle m'était apparue dans l'éclair d'une métamorphose, avec des joues irréductibles, impénétrables à la couleur du nom de Guermantes, et des après-midi au bord de la Vivonne, à la place de mon rêve foudroyé, comme un cygne ou un saule, en lequel on a changé un dieu ou une nymphe, et qui, désormais soumis aux lois de la nature, glissera dans l'eau ou sera agité par le vent. Pourtant, ces reflets évanouis, à peine les avais-je quittés qu'ils s'étaient reformés comme les reflets roses et verts du soleil couché, derrière la rame qui les a brisés. Et dans la solitude de ma pensée, le nom avait eu vite fait de s'approprier le souvenir du visage. Mais maintenant, souvent je la voyais à sa fenêtre, dans la cour, dans la rue. Et moi, du moins, si je ne parvenais pas à intégrer en elle le nom de Guermantes, à penser qu'elle était Madame de Guermantes, j'en accusais l'impuissance de mon esprit à aller jusqu'au bout de l'acte que je lui demandais. Mais elle, notre voisine, elle semblait commettre la même erreur. Bien plus, la commettre sans trouble, sans aucun de mes scrupules, sans même le soupçon que ce fût une erreur. Ainsi, Madame de Guermantes montrait dans ses robes le même souci de suivre la mode que, si, se croyant devenue une femme comme les autres, elle avait aspiré à cette élégance de la toilette, dans laquelle des femmes quelconques pouvaient l'égaler, la surpasser peut-être. Je l'avais vue dans la rue regarder avec admiration une actrice bien habillée. Et le matin, au moment où elle allait sortir à pied, comme si l'opinion des passants dont elle faisait ressortir la vulgarité en promenant familièrement au milieu d'eux sa vie inaccessible pouvait être un tribunal pour elle, je pouvais l'apercevoir devant sa glace, jouant avec une conviction exempte de dédoublement et d'ironie, avec passion, avec mauvaise humeur, avec amour-propre, comme une reine qui a accepté de représenter une soubrette dans une comédie de cour. Ce rôle si inférieur à elle de femme élégante. Et dans l'oubli mythologique de sa grandeur native, elle regardait si sa voilette était bien tirée, aplatissait ses manches, ajustait son manteau, comme le cygne divin fait tous les mouvements de son espèce animale, garde ses yeux peints des deux côtés de son bec, sans y mettre de regard, et se jette tout d'un coup sur un bouton ou un parapluie, en cygne, sans se souvenir qu'il est un dieu. Mais, comme le voyageur, déçu par le premier aspect d'une ville, se dit qu'il en pénétrera peut-être le charme en visitant les musées, en liant connaissance avec le peuple, en travaillant dans les bibliothèques, je me disais que si j'avais été reçu chez Madame de Guermantes, si j'étais de ses amis, si je pénétrais dans son existence, je connaîtrais ce que, sous son enveloppe orangée et brillante, son nom enfermait réellement, objectivement, pour les autres, puisqu'enfin l'ami de mon père avait dit que le milieu des Guermantes était quelque chose d'à part dans le faubourg Saint-Germain. La vie que je supposais y être menée dérivait d'une source si différente de l'expérience et me semblait devoir être si particulière que je n'aurais pu imaginer aux soirées de la duchesse la présence de personnes que j'eusse autrefois fréquentées, de personnes réelles. Car ne pouvant changer subitement de nature, elles auraient tenu là des propos analogues à ceux que je connaissais. Leur partenaire se serait peut-être abaissé à leur répondre dans le même langage humain, et pendant une soirée dans le premier salon du faubourg Saint-Germain, il y aurait eu des instants identiques à des instants que j'avais déjà vécus. Ce qui était impossible. Il est vrai que mon esprit était embarrassé par certaines difficultés, et la présence du corps de Jésus-Christ dans l'hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du faubourg situé sur la rive droite et dont je pouvais de ma chambre entendre battre les meubles le matin. Mais la ligne de démarcation qui me séparait du faubourg Saint-Germain, pour être seulement idéal, ne m'en semblait que plus réel. Je sentais bien que c'était déjà le faubourg, le paillasson des Guermantes étendu de l'autre côté de cet équateur, et dont ma mère avait osé dire, l'ayant aperçu comme moi, un jour que leur porte était ouverte, qu'il était en bien mauvais état. Au reste, comment leur salle à manger, leur galerie obscure, aux meubles de peluche rouge que je pouvais apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre cuisine, ne m'aurait-il pas semblé posséder le charme mystérieux du faubourg Saint-Germain, en faire partie d'une façon essentielle, y être géographiquement situé, puisque avoir été reçu dans cette salle à manger, c'était être allé dans le faubourg Saint-Germain, en avoir respiré l'atmosphère, puisque ceux qui, avant d'aller à table, s'asseyaient à côté de Madame de Guermantes sur le canapé de cuir de la galerie, étaient tous du faubourg Saint-Germain. Sans doute, ailleurs que dans le faubourg, dans certaines soirées, on pouvait voir parfois, trônant majestueusement au milieu du peuple vulgaire, des élégants, l'un de ces hommes qui ne sont que des noms et qui prennent tour à tour, quand on cherche à se les représenter, l'aspect d'un tournoi et d'une forêt domaniale. Mais ici, dans le premier salon du faubourg Saint-Germain, dans la galerie obscure, il n'y avait qu'eux. Ils étaient, en une matière précieuse, les colonnes qui soutenaient le temple. Même pour les réunions familières, ce n'était que parmi eux que Madame de Guermantes pouvait choisir ses convives. Et dans les dîners de 12 personnes, assemblés autour de la nappe servie, ils étaient comme les statues d'or des apôtres de la Sainte-Chapelle, piliers symboliques et consécrateurs devant la Sainte-Table. Quant au petit bout de jardin qui s'étendait entre de hautes murailles derrière l'autel, et où l'été Madame de Guermantes faisait après dîner servir des liqueurs et l'orangeade, comment n'aurais-je pas pensé que s'asseoir entre 9 et 11 heures du soir, sur ces chaises de fer, douées d'un aussi grand pouvoir que le canapé de cuir, sans respirer les brises particulières au faubourg Saint-Germain, était aussi impossible que de faire la sieste dans l'oasis de Figuide, sans être par cela même en Afrique. Il n'y a que l'imagination et la croyance qui peuvent différencier des autres certains objets, certains êtres, et créer une atmosphère. Hélas, ces sites pittoresques, ces accidents naturels, ces curiosités locales, ces ouvrages d'art du faubourg Saint-Germain, il ne me serait sans doute jamais donné de poser mes pas parmi eux. Et je me contentais de tressaillir en apercevant de la haute mer, et sans espoir d'y jamais aborder, comme un minaret avancé, comme un premier palmier, comme le commencement de l'industrie ou de la végétation exotique, le paillasson usé du rivage. Mais si l'hôtel de Guermantes commençait pour moi à la porte de son vestibule, ses dépendances devaient s'étendre beaucoup plus loin au jugement du duc, qui, tenant tous les locataires pour fermiers, manants, acquéreurs de biens nationaux, dont l'opinion ne compte pas, se faisait la barbe le matin en chemise de nuit à sa fenêtre, descendait dans la cour, selon qu'il avait plus ou moins chaud, en bras de chemise, en pyjama, en veston écossais de couleur rare, à longs poils, en petit paletot clair plus court que son veston, et faisait trotter en main devant lui, par un de ses piqueurs, quelque nouveau cheval qu'il avait acheté. Plus d'une fois même, le cheval abîma la devanture de Jupien, lequel indigna le duc en demandant une indemnité. Quand ce ne serait qu'en considération de tout le bien que madame la duchesse fait dans la maison et dans la paroisse, disait monsieur de Guermantes. C'est une infamie de la part de ce quidam de nous réclamer quelque chose. Mais Jupien avait tenu bon, paraissant ne pas du tout savoir quel bien avait jamais fait la duchesse. Pourtant, elle en faisait, mais comme on ne peut l'étendre sur tout le monde, le souvenir d'avoir comblé l'un est une raison pour s'abstenir à l'égard d'un autre, chez qui on excite d'autant plus de mécontentement. À d'autres points de vue, d'ailleurs, que celui de la bienfaisance, le quartier ne paraissait au duc, et cela jusqu'à de grandes distances, qu'un prolongement de sa cour, une piste plus étendue pour ses chevaux. Après avoir vu comment un nouveau cheval trottait seul, il le faisait atteler, traversait toutes les rues avoisinantes, le piqueur courant le long de la voiture en tenant les guides, le faisant passer et repasser devant le duc, arrêté sur le trottoir, debout, géant, énorme, habillé de clair, le cigare à la bouche, la tête en l'air, le monocle curieux, jusqu'au moment où il sautait sur le siège, menait le cheval lui-même pour l'essayer, et partait avec le nouvel attelage, retrouver sa maîtresse aux Champs-Élysées. Monsieur de Guermantes disait bonjour dans la cour à deux couples qui tenaient plus ou moins à son monde, un ménage de cousins à lui qui, comme les ménages d'ouvriers, n'était jamais à la maison pour soigner les enfants, car dès le matin, la femme partait à la scola apprendre le contrepoint et la fugue et le mari à son atelier faire de la sculpture sur bois et des cuirs repoussés. Puis, le baron et la baronne de Norpois, habillés toujours en noir, la femme en loueuse de chaise et le mari en croque-mort, qui sortaient plusieurs fois par jour pour aller à l'église. Ils étaient les neveux de l'ancien ambassadeur que nous connaissions et que justement mon père avait rencontré sous la voûte de l'escalier, mais sans comprendre d'où il venait. Car mon père pensait qu'un personnage aussi considérable, qui s'était trouvé en relation avec les hommes les plus éminents de l'Europe, et était probablement fort indifférent à de vaines distinctions aristocratiques, ne devait guère fréquenter ces nobles obscurs, cléricaux et bornés. Ils habitaient depuis peu dans la maison. Jupien étant venu dire un mot dans la cour au mari qui était en train de saluer M. de Guermantes, l'appela M. Norpois, ne sachant pas exactement son nom. Ah, M. Norpois, ah, c'est vraiment trouvé. Patience, bientôt ce particulier vous appellera citoyen Norpois, s'écria en se tournant vers le baron M. de Guermantes. Il pouvait enfin exhaler sa mauvaise humeur contre Jupien, qui lui disait « Monsieur » et non « Monsieur le Duc ». Un jour que monsieur de Guermantes avait besoin d'un renseignement qui se rattachait à la profession de mon père, il s'était présenté lui-même avec beaucoup de grâce. Depuis, il avait souvent quelques services de voisins à lui demander, et dès qu'il l'apercevait en train de descendre l'escalier, tout en songeant à quelque travail et désireux d'éviter toute rencontre, le duc quittait ses hommes d'écurie, venait à mon père dans la cour, lui arrangeait le col de son pardessus, avec la serviabilité héritée des anciens valets de chambre du roi, lui prenait la main, et, la retenant dans la sienne, la lui caressant même pour lui prouver avec une impudeur de courtisane qu'il ne lui marchandait pas le contact de sa chair précieuse, il le menait en laisse, fort ennuyé et ne pensant qu'à s'échapper, jusqu'au-delà de la porte cochère. Il nous avait fait de grands saluts un jour qu'il nous avait croisés au moment où il sortait en voiture avec sa femme. Il avait dû lui dire mon nom, mais quelle chance y avait-il pour qu'elle se le fût rappelée, ni mon visage. Et puis, quelle piètre recommandation que d'être désigné seulement comme étant un de ses locataires. Une plus importante eût été de rencontrer la duchesse chez madame de Villeparisis, qui justement m'avait fait demander par ma grand-mère d'aller la voir, et, sachant que j'avais eu l'intention de faire de la littérature, avait ajouté que je rencontrerais chez elle des écrivains. Mais mon père trouvait que j'étais encore bien jeune pour aller dans le monde, et comme l'état de ma santé ne laissait pas de l'inquiéter, il ne tenait pas à me fournir des occasions inutiles de sorties nouvelles. Comme un des valets de pied de madame de Guermantes causait beaucoup avec Françoise, j'entendis nommer quelques-uns des salons où elle allait, mais je ne me les représentais pas. Du moment qu'ils étaient une partie de sa vie que je ne voyais qu'à travers son nom, n'était-il pas inconcevable? Il y a ce soir grande soirée d'ombres chinoises chez la princesse de Parme, disait le valet de pied. Mais nous n'irons pas, parce que à 5 heures, madame prend le train de Chantilly pour aller passer 2 jours chez le duc d'Aumale. Mais c'est la femme de chambre et le valet de chambre qui y vont. Moi, je reste ici. Elle ne sera pas contente, la princesse de Parme. Elle a écrit plus de 4 fois à madame la duchesse. Alors, vous n'êtes plus pour aller au château de Guermantes cette année ?
C'est la première fois que nous n'y serons pas. À cause des rhumatismes, à monsieur le duc, le docteur a défendu qu'on y retourne avant qu'il y ait un calorifère. Mais avant ça, tous les ans on y était pour jusqu'en janvier. Si le calorifère n'est pas prêt, peut-être madame ira quelques jours à Cannes chez la duchesse de Guise, mais ce n'est pas encore sûr.
Et au théâtre, est-ce que vous y allez ?
Nous allons quelquefois à l'opéra, quelquefois aux soirées d'abonnement de la princesse de Parme. C'est tous les 8 jours. Il paraît que c'est très chic ce qu'on voit. Il y a pièces, opéra, tout. Madame la duchesse n'a pas voulu prendre d'abonnement, mais nous y allons tout de même une fois dans une loge d'une amie à madame, une autre fois dans une autre, souvent dans la baignoire de la princesse de Guermantes, la femme du cousin, monsieur le duc. C'est la sœur au duc de Bavière.
« Et alors, vous remontez comme ça chez vous ?» disait le valet de pied qui, bien qu'identifié aux Guermantes, avait cependant des maîtres, en général, une notion politique qui lui permettait de traiter Françoise avec autant de respect que si elle avait été placée chez une duchesse.
« Vous êtes d'une bonne santé, madame. »
« Ah, ces maudites jambes ! En pleine encore, ça va bien !» En pleine voulait dire dans la cour, dans les rues, où Françoise ne détestait pas de se promener, en un mot, en terrain plat. « Mais ce sont ces satanés escaliers ! Au revoir, monsieur, on vous verra peut-être encore ce soir !» Elle désirait d'autant plus causer encore avec le valet de pied, qu'il lui avait appris que les fils des ducs portent souvent un titre de prince qu'ils gardent jusqu'à la mort de leur père. Sans doute le culte de la noblesse, mêlé et s'accommodant d'un certain esprit de révolte contre elle,
doit, héréditairement puisé sur les glèbes de France, être bien fort en son peuple. Car Françoise, à qui on pouvait parler du génie de Napoléon ou de la télégraphie sans fil, sans réussir à attirer son attention, et sans qu'elle ralentît un instant les mouvements par lesquels elle retirait les cendres de la cheminée ou mettait le couvert, si seulement elle apprenait ses particularités et que le fils cadet du duc de Guermantes s'appelait généralement le prince d'Oléron, s'écriait « C'est beau, ça !» et restait ébloui comme devant un vitrail. Françoise apprit aussi par le valet de chambre du prince d'Agrigente, qui s'était lié avec elle en venant souvent porter des lettres chez la duchesse, qu'il avait, en effet, fort entendu parler dans le monde du mariage du marquis de Saint-Loup avec mademoiselle d'Ambrezac, et que c'était presque décidé. Cette villa, cette baignoire où madame de Guermantes transvasait sa vie, ne me semblait pas des lieux moins féeriques que ses appartements. Les noms de Guise, de Parme, de Guermantes-Bavière différenciaient de toutes les autres les villégiatures où se rendait la duchesse. Les fêtes quotidiennes que le sillage de sa voiture reliait à son hôtel. S'il me disait qu'en ces villégiatures, en ces fêtes, consistait successivement la vie de madame de Guermantes, il ne m'apportait sur elle aucun éclaircissement. Elle donnait chacune à la vie de la duchesse une détermination différente, mais ne faisait que la changer de mystère, sans qu'elle laissât rien évaporer du sien, qui se déplaçait seulement, protégé par une cloison, enfermé dans un vase, au milieu des flots de la vie de tous. La duchesse pouvait déjeuner devant la Méditerranée à l'époque de carnaval, mais dans la villa de madame de Guise, où la reine de la société parisienne n'était plus, dans sa robe de piquet blanc, au milieu de nombreuses princesses, qu'une invitée pareille aux autres, et par là plus émouvante encore pour moi, plus elle-même d'être renouvelée comme une étoile de la danse, qui, dans la fantaisie d'un pas, vient prendre successivement la place de chacune des ballerines ses sœurs. Elle pouvait regarder des ombres chinoises, mais à une soirée de la princesse de Parme, écouter la tragédie ou l'opéra. Mais dans la baignoire de la princesse de Guermantes. Comme nous localisons dans le corps d'une personne toutes les possibilités de sa vie, le souvenir des êtres qu'elle connaît et qu'elle vient de quitter, ou s'en va rejoindre, si, ayant appris par Françoise que madame de Guermantes irait à pied déjeuner chez la princesse de Parme, je la voyais vers midi descendre de chez elle en sa robe de satin clair, au-dessus de laquelle son visage était de la même nuance, comme un nuage au soleil couchant. Et c'était tous les plaisirs du faubourg Saint-Germain que je voyais tenir devant moi, sous ce petit volume, comme dans une coquille, entre ses valves glacées de nacre rose. Mon père avait au ministère un ami, un certain A. J. Moreau, lequel, pour se distinguer des autres Moreau, avait soin de toujours faire précéder son nom de ses deux initiales, de sorte qu'on l'appelait, pour abréger, A. J. Or, je ne sais comment cet A. J. se trouva possesseur d'un fauteuil pour une soirée de gala à l'opéra. Il l'envoya à mon père, et, comme la Berma, que je n'avais plus vu jouer depuis ma première déception, devait jouer un acte de Phèdre, ma grand-mère obtint que mon père me donnât cette place. À vrai dire, je n'attachais aucun prix à cette possibilité d'entendre la Berma, qui, quelques années auparavant, m'avait causé tant d'agitation. Et ce ne fut pas sans mélancolie que je constatai mon indifférence à ce que jadis j'avais préféré à la santé au repos. Ce n'est pas que fût moins passionné qu'alors mon désir de pouvoir contempler de près les parcelles précieuses de réalité qu'entrevoyait mon imagination. Mais celle-ci ne les situait plus maintenant dans la diction d'une grande actrice. Depuis mes visites chez Elstir, c'est sur certaines tapisseries, sur certains tableaux modernes que j'avais reporté la foi intérieure que j'avais eue jadis en ce jeu, en cet art tragique de la Berma. Ma foi, mon désir ne venant plus rendre à la diction et aux attitudes de la Berma un culte incessant, le double que je possédais d'eux dans mon cœur avait dépéri peu à peu, comme ces autres doubles des trépassés de l'ancienne Égypte qu'il fallait constamment nourrir pour entretenir leur vie. Cet art était devenu mince et minable. Aucune âme profonde ne l'habitait plus.